Merci à Bernard Werber aussi d'être là si tôt. Moi, ce que je vous propose, parce que nous avons la chance, et cela arrive assez rarement à un salon du livre, nous avons la chance d'avoir l'auteur pendant 1h15. Donc nous pouvons aussi avoir une discussion plus simple, plus chaleureuse, moins conférence, moins questions-réponses journaliste-auteur. Donc ce que je vous propose dès le début, c'est de ne pas hésiter à nous interrompre, à m'interrompre moi, surtout si vous avez des questions. À ceux qui ont lu le livre, à nous donner aussi vos impressions, vos incompréhensions, parce que vous savez que chacun lit son livre avec ses yeux à lui, et vous allez voir très souvent l'image que vous faites des personnages n'est pas forcément la même que l'image que l'auteur a de ses propres personnages. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est une rencontre simple. Nous avons la chance d'avoir un auteur qui est très chaleureux. Alors ce que je vais faire, parce que j'ai préparé quand même pour certains, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, j'ai préparé une intro. Et ça me laisse le temps de moi, d'être un petit peu moins stressée par les bouteilles qui tombent et tout ça, et par l'interview de Bernard Werber. Je vais vous faire la petite intro, et ensuite nous allons parler de ce dernier livre et du prochain qui va sortir dans quelques semaines. Alors, comme je disais, nous avons la chance de rencontrer ce matin un écrivain qui est non seulement une immense star mondiale, mais surtout quelqu'un, et cela est rare dans le milieu, et j'ai pu même le vérifier il y a 5 minutes dans le café à côté, que le succès n'a pas transformé, qui ne change pas sa façon de fonctionner et travailler, et reste incroyablement proche de ses lecteurs. C'est un peu tout cela que j'espère vous faire découvrir tout au long de ces 75 minutes que nous allons passer ensemble. Nous découvrirons les œuvres que Bernard Werber dédicace ici à Morges, son dernier livre dont je vous parlais, La Voix de la Terre, mais aussi le tout nouveau qui sortira dans moins d'un mois. Nous découvrirons aussi, je l'espère, un peu qui est l'homme qui vit derrière la vingtaine de livres, nouvelles, pièces de théâtre déjà publiées et traduites dans une trentaine de langues et par millions rien qu'en Russie et en Corée. Bonjour Bernard Werber. Je vois que vous impatientez un peu, ou c'est parce que vous êtes modeste?
Non, je vous écoute.
Merci d'être avec nous de si bon matin, mais en même temps je crois que pour vous, vous êtes un lève tôt de toute façon, vous écrivez tous les jours à 8h30, non?
Oui. Oui, d'habitude, 8h, midi et demi, j'écris. Donc là, j'étais surpris de voir dans le programme que j'avais quelque chose de très tôt. Et en effet, normalement, c'est l'heure où j'écris. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai l'air un peu dans les vapes, c'est parce que normalement, je plane à cette heure-là. Mais c'est pour ça que je vous écoute. Allez-y.
Est-ce que vous étiez déjà venu à Morges?
Non, jamais.
Même en dehors du salon?
Quand je suis venu en Suisse, j'ai fait que Genève. C'est sur le trajet, donc Lausanne, je ne connaissais pas.
Voilà.
Continuez.
Pour ceux d'entre vous, si jamais à Morges, il y a quelqu'un parmi vous qui ne connaissent pas encore Bernard Werber, je vais vous raconter un petit peu son parcours, parce que cela pourra vous donner aussi des idées de questions tout à l'heure. Alors, je parle sous votre contrôle. Après des études de droit et de criminologie à Toulouse, Bernard Werber entre à l'École supérieure de journalisme de Paris. Il fait ses premières armes dans un journal de Cambrai aux rubriques « Chien écrasé », météo, mariage et cérémonies en tout genre, avant de gagner le prix de la fondation NUS du meilleur jeune reporter qui lui permet de financer son premier vrai grand reportage. Sujet, et il ne vous surprendra pas, les redoutables fourmis Magnan, c'est comme ça qu'on prononce Magnan, de Côte d'Ivoire. À son retour, il devient pigiste pour l'événement Le Point VSD, puis journaliste scientifique au Nouvel Observateur, où il reste 7 ans. Son enquête sur les Magnans va lui inspirer son premier roman, Les Fourmis, qui connaît dès sa sortie en 91 un succès immédiat en France et dans le monde, notamment, je vous le disais, en Corée ou en Russie, où encore aujourd'hui, c'est assez spectaculaire. Dès qu'il se déplace, il y a des foules. Je crois qu'une fois, vous aviez pour une conférence 5000 personnes. C'était en Russie? C'était en Corée? C'est... Et en fait, c'est comment de parler... On sait que lorsqu'on est écrivain, c'est pas notre travail d'être conférencier, donc c'est pas forcément évident. Arriver devant 5000 personnes, ça fait quoi?
Ah, moi c'est pareil qu'être en Suisse. Avec moi, non, je parle pareil. Dès le moment où on monte sur scène, un petit micro comme ça. Après, il y a un instant de, comment dire, d'adaptation, et après c'est juste les idées qui circulent. Moi je me perçois comme un canal qui transmet des idées. Je fais abstraction de l'individu, et après il y a comment ces idées sont perçues par les gens et qu'est-ce que ça leur donne envie d'avoir comme retour. Mais en effet c'est la rencontre avec les lecteurs, et c'est cette fusion là qui m'intéresse.
Est-ce qu'il y a des différences entre les lecteurs, parce qu'on peut imaginer qu'il y a une grosse différence de culture entre les lecteurs coréens, russes et puis vous qui écrivez en français. Est-ce que vous sentez, pourquoi pensez-vous ce succès? Ils sont plus mystiques, plus proches et perméables au futur dans ces pays-là?
Alors d'abord, il faut voir une chose, c'est que pour ce qui est le cas de la Corée et de la Russie, d'abord c'est des endroits où les gens, par rapport à la France, je ne sais pas par rapport à la Suisse, mais où les gens lisent beaucoup plus. Donc ils ont beaucoup plus de culture et ils sont beaucoup moins influencés par... C'est-à-dire, nous on a un problème en France, c'est qu'il y a une sorte de petit groupe de mandarins qui disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, qui sont à Paris, et ces gens-là font la pluie et le beau temps, mais ils envoient vers des livres ennuyeux. Alors au bout d'un moment... ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont, quoi. C'est un peu dommage. Mais cette bizarrerie française n'existe pas dans ces pays-là. C'est-à-dire, il y a des critiques littéraires qui lisent réellement les livres, tous les livres. Et il y a des gens qui s'intéressent à toutes les littératures. Donc, c'est pas tellement que c'est bizarre en Russie ou en Corée, pour prendre ces deux cas, c'est que c'est anormal en France qu'il n'y ait pas de place pour la littérature imaginaire, je vais dire.
Oui, surtout quand on voit le passé littéraire de la France, parce que finalement, aujourd'hui, on a... Mais bon, on parlera de cela tout à l'heure.
Oui, oui. Mais moi, je crois que de toute façon, on va être forcé à un moment, de manière générale, tous les êtres humains, à nous intéresser à notre futur. On ne peut pas tout le temps avoir qu'une littérature nostalgique du passé. Il y a un moment, il faudra s'intéresser à où on va. Tout simplement. Il y a une phrase de Woody Allen qui dit « Je m'intéresse au futur parce que c'est là où je compte passer le reste de ma vie. » c'est ce qui va se passer pour nous. Donc, on peut faire être aveugle et se dire « Tiens, parlons de Louis XIV et parlons de la guerre de 14-18. » Mais au bout d'un moment, c'est quand même un peu vieillot ringard, quoi. Et maintenant, ce qui est dommage, c'est que les médias français et parisiens disent « Il n'y a que ça intéressant. » Donc Ça prive le public de toute une littérature, je ne parle pas que pour moi, mais ça prive le public de toute une littérature passionnante qui existe réellement déjà.
Mais est-ce que, c'est peut-être une question un peu naïve, mais je me la suis posée, je me la pose en vous écoutant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait que les spiritualités aient un peu disparu de notre trajet personnel puisse aussi faire qu'on s'intéresse moins au fantastique, qu'on s'intéresse moins au futur, à ce qu'il y a au-delà, s'il y a un au-delà, quel qu'il soit, religieux ou pas?
Alors, d'abord, je ne crois pas que la spiritualité ait disparu. C'est-à-dire, la spiritualité est
dans
moins...
Dans notre quotidien, je veux dire, dans notre quotidien.
Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de spiritualité. D'abord, il n'y a jamais eu autant d'auteurs qui diffusent sur la méditation, sur la découverte des spiritualités orientales. Je pense qu'une partie de mes lecteurs sont aussi très intéressés par la spiritualité, en référence au Thanatonautes, l'Empire des Anges, qui sont des purs livres de vulgarisation de spiritualité. Et j'ai l'impression que la plupart des gens s'aperçoivent que le monde de consommation et le monde matériel, et le petit chat que j'ai dans la gorge, ne bougez pas, ne peut pas être, ça ne peut pas être une finalité de vie. Vous avez tous les bruits en direct.
Voilà, pour que vous ayez moins les bruits, j'ai une petite question. Est-ce que parmi vous, il y a certains qui ont déjà lu La Voix de la Terre, le dernier, pour savoir...
Bravo.
Ah oui. Donc, ce qu'on va faire...
Mais tant mieux, comme ça, je vais pouvoir...
Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu, du coup, c'était pour savoir si nous allions un petit peu raconter, en gros, le résumé du livre, pour que nous puissions avancer et le placer dans le contexte de l'œuvre de Bernard Werber.
La voix de la Terre, c'est bon. Ah oui, la voix va mieux.
Ah ben voilà.
Ça, c'est la voix
c'était
de...
la voix, c'était pour passer à...
La voix de l'auteur, il y a la voix de la Terre, la voix de l'auteur. Non, je parle de la spiritualité. Je crois que de toute façon, on va être condamné à devenir spirituel pour une raison simple, c'est que sinon, on va être malheureux. On ne peut pas trouver ni dans la consommation, ni dans le système économique tel qu'il est, on ne peut pas trouver une réalisation personnelle. Il y a un moment, on est forcé de se demander qu'est-ce qu'on fout là, et comment utiliser au mieux ses talents. Et ça, c'est des questions qui ne sont pas posées par les publicités à la télévision, ni par vos collègues de travail, ni par le système tel qu'il est. Donc il faut trouver un endroit où tout d'un coup on se retrouve et on se rappelle qui on est. Et mes livres servent à ça, à faire que les gens se rappellent qui ils sont et pourquoi ils sont là. D'ailleurs, je me pose moi-même ces questions. Quand j'écris, j'essaie moi-même d'évoluer. Il y a deux choix dans la vie. Soit on tourne en rond, soit on évolue. C'est bon pour l'humanité, c'est bon pour vous. Pour vous, il est évident que si vous avez une vie de routine dans laquelle vous ne faites que répéter sans cesse les mêmes gestes, votre cerveau n'est pas sollicité, vous n'avez pas de défi, vous n'avez pas de moment où vous retrouvez vous-même, au bout d'un moment vous n'allez pas être malheureux, mais ce qu'il y a c'est que votre vie ne va pas avoir de sens. Et ni l'amour, ni le travail, ni la fortune, ni la famille ne pourront combler cette chose-là. En fait, c'est viable si on est un peu inconscient. Dès le moment où on devient conscient, on ne peut pas supporter de vivre juste par rapport au regard des autres et à l'adaptation au système. Notre système est confortable, mais n'est pas réjouissant pour notre âme, on va dire. Ce qui est réjouissant pour notre âme, c'est comprendre qui on est et utiliser ses talents pour diffuser. Et on en est tous capables, il n'y a pas des gens qui sont, il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de choisis, on est tous capables, c'est juste qu'il faut en avoir envie. Si vous vous dites, après tout, la vie telle qu'elle est me convient, et qu'après tout, elle vous convient, ben, vous n'avez plus qu'à attendre la retraite, puis après vous allez au hospice de vieux, puis là vous jouez aux cartes, et puis vous mourrez. C'est pas grave, tout va bien. Si ce n'est que vous êtes passé à côté d'un truc intéressant, qui est comprendre où on est, sur quelle planète on est, et comment on peut-être participer à faire que les choses, enfin de manière globale, à faire que les choses aillent un peu mieux. Alors, aller un peu mieux, faut que je développe, ça veut dire que, enfin moi je dis un terme, c'est qu'on rentre dans une phase non plus de croissance, mais d'harmonie. Ce que nous disent les journaux, ce que nous disent les politiciens, c'est qu'il faut qu'on entre dans la croissance. Toujours plus de consommation, toujours plus d'enfants, toujours plus d'emprise sur la terre, toujours plus d'argent. C'est ce qu'on nous propose. Mais non, dans ce toujours plus, il y a un moment où on va épuiser la terre, on va épuiser la consommation, on va épuiser notre entourage, et on va se retrouver tout seul devant le miroir, et puis, ok, c'est toujours plus, ça vous apportait quoi? Bon, ben, vous mangez du caviar au lieu de manger du poisson, et alors?
Mais parfois, de plus en plus, c'est un peu le mal de l'homme moderne, le toujours plus amène la dépression.
Voilà, et la dépression, c'est encore quand on est capable de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui n'entrent pas en dépression, parce qu'ils sont, j'allais dire, ils ne sont même pas conscients qu'il y a un truc qui ne va pas. On a chacun notre parcours personnel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous la possibilité de, je n'ai pas d'autre terme, de rayonner. Et quand j'ai entendu la chanson de Pink Floyd, Shine on your crazy diamond, j'ai compris ça comme fais briller ton diamant intérieur. C'est un peu le message de tous mes livres, surtout La Voix de la Terre. C'est un, prenez conscience que vous avez un diamant intérieur. Deux, faites-le briller. Alors l'autre choix, c'est ne pas prendre conscience qu'on a un diamant intérieur et ne pas le faire briller. Et puis ça va bien aussi. Mais il ne faudra pas que plus tard, où on ait des moments de lucidité, on se dise, attends, j'aurais peut-être quand même pu faire mieux de cette vie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'éducation autour de ça. On ne vous dit pas à l'école, soyez créatif. Les parents ne vous disent pas, j'espère que tu vas faire une jolie fresque picturale ou que tu vas faire une belle musique. Ils vous disent juste, j'espère que tu vas entrer dans une école de commerce et que tu vas trouver un job qui te permettra d'être indépendant. Ok, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez les parents, vous écoutez le système, enfin, pour ceux qui sont intéressés par le commerce, vous rentrez à une école de commerce et vous retrouvez à vendre des machines à laver. Mais à quel moment vous rentrez dans une banque, mais à quel moment vous dites, là je fais un truc qui est vraiment utile, qui est vraiment en phase avec mon époque. Et en effet, il y a ce risque de dépression. Mais la dépression, c'est un peu comme dans la météo, c'est quand tout d'un coup les nuages noircissent et puis vous avez l'orage. Ça permet de relâcher la pression. Le contraire de la dépression, c'est pas de nuages, c'est-à-dire c'est la sécheresse. Là où il n'y a pas de dépression, il y a toujours du beau temps. Mais rien ne pousse. La dépression, ça va permettre d'avoir une pluie qui va permettre de faire évoluer les choses. L'objectif, c'est d'évoluer, et j'allais même dire de faire évoluer notre âme. Même pas notre corps, même pas notre système économique. Notre âme a envie d'aller plus loin et de comprendre des choses. Et j'utilise des termes un peu de spiritualité, mais c'est-à-dire, elle a utilisé ce corps pour entrer dans l'action, pour entrer dans la matière, mais elle utilise ce corps comme un outil pour apprendre et aller plus loin. Maintenant, si elle se contente de dire « je vais gérer ce corps et je vais me débrouiller pour qu'il fasse du sport et qu'il ait une belle voiture et qu'il sorte avec des gens intéressants, que je fasse des gosses et puis qu'après j'ai un confort de vie. » Ben, le corps est satisfait, mais est-ce que l'âme qui est venue est contente ? Enfin, c'est un questionnement, je crois que c'est des questions un peu nouvelles, un peu bizarres, mais en tout cas, c'est les questions que je pose dans mes romans, c'est peut-être que nous avons quelque chose à faire, et que ce quelque chose ne nous est indiqué par personne, parce que à l'école, on n'a pas intérêt à vous dire ça, ça complique les choses. En fait, ni l'école, ni le système économique n'ont intérêt à ce que vous ayez une prise de conscience ou une évolution, parce que il n'y a rien à vendre, il n'y a rien... Ça, il n'y a pas de vote à donner pour un parti politique, il n'y a pas de moment où vous achetez une boisson sucrée. Donc, dans le système tel qu'il est, le fait que vous soyez intelligent ou con, ça ne change rien par rapport aux autres. Maintenant, c'est vous, par rapport à vos propres ambitions, est-ce que vous préférez être intelligent ou est-ce que vous préférez retrouver le confort d'être en phase avec la masse. Vous savez, je regardais hier en zappant, en me couchant, la télé-réalité, il y avait une secret story. Et on voit des gens beaux et cons. Et visiblement, c'est ce qui plaît aux jeunes, parce qu'ils ont un très bon audimat. Donc c'est des gens beaux et cons, et en même temps, qui se posent des questions pour bien vérifier qu'ils sont bien cons. Et alors c'est mis avec des petites musiques pour se foutre de leur gueule, donc ça veut dire que c'est vraiment, on est conscient que c'est ça. Et donc c'est un prime time, donc c'est à l'heure la plus grande écoute, c'est l'heure où on va vous mettre le plus de publicité, et en gros ça vous dit, si vous, voilà l'idéal qu'on devrait tous avoir, c'est-à-dire si vous êtes une fille, vous devez ressembler à une pin-up, être blonde et faire... Et si vous êtes un mec, vous devez avoir l'allure d'un professeur de golf ou de voile, et puis être dans « Ah, je ne sais pas, Cynthia, si elle m'aime, parce que hier, elle embrassait l'autre, et voilà, bon. » Et ça, c'est le projet de vie que vous proposent ces émissions. Je ne sais pas, ils doivent avoir 5 millions d'auditeurs, de spectateurs en France. Donc, il y a une émission où on voit des gens... En plus, je crois qu'ils se posaient des questions hier. Je ne sais plus ce que c'était, c'était des questions de culture, mais c'était d'une stupidité, c'est-à-dire qu'on voyait qu'en fait, ils n'ont même pas le niveau BEPC, quoi. C'est vraiment le ras de la moquette. Et il y a une sorte d'étalonnage par la bêtise, et ces gens-là ne sont pas malheureux, ils sont joyeux, ils rient. C'est une sorte d'idéal qui est proposé, et je me dis, peut-être que moi aussi, je devrais être comme ça. Je me pose peut-être trop de questions. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est que peut-être vous n'êtes pas en phase avec ce schéma-là. Alors le problème, c'est que si on veut se poser des questions, c'est sans fin, c'est une quête permanente, et on n'est jamais satisfait. Alors que si on ne se pose pas de questions et qu'on est bien con, on a une béatitude, et c'est permanent, et c'est pas mal. Donc posez-vous quand même vous-même la question, peut-être qu'après tout, j'ai encore ce choix, aller vers la bêtise, ou aller vers l'intelligence, sachant que la bêtise est confortable. Je trouve que c'est vachement bien exprimé dans Matrix. Vous vous rappelez le choix entre les deux pilules, la bleue et la rouge. Soit vous êtes dans le système et tout va bien, vous êtes dans l'illusion, soit, et c'est plutôt confortable, soit vous choisissez d'être conscient de la réalité du monde, et là c'est terrible, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et que vous êtes impuissant, et vous allez avoir le sentiment qu'en plus, il y a des forces terribles qui vont se déchaîner contre vous. Et là, vous rentrez dans un système... Je vais vous raconter un truc. Moi, j'ai découvert la méditation, j'avais 13 ans. Et c'était un prof de yoga qui avait 13 ans aussi, qui m'a, tout d'un coup, il m'a appris ça, c'était en colonie de vacances. Et on partait le matin à 6h, on se mettait en posture, c'était du Hatha yoga. Et il me disait, fais le vide dans ta tête, prends la posture et tout. Et d'abord, j'avais l'impression, on était dans notre groupe, on devait être déjà 200, j'étais le seul à m'apercevoir que ce type avait quelque chose à donner. Tous les autres s'étaient dit, bon ben, il a l'air un peu plus calme, il a l'air un peu plus détendu que les autres. Et un jour, il y a un type qui était le spécialiste du karaté, qui arrive vers moi, il fait... Pourquoi tu fais de la méditation? Pourquoi tu fais du yoga? Je fais, pourquoi vous êtes tous les deux là, vous avez l'air le gourou et le disciple, vous êtes débiles. Alors j'ai dit, ben, on fait ce qui nous plaît. Il fait, ben non, ça me plaît pas, ça ne me plaît pas que tu fasses de la méditation du yoga. Et en fait, moi et mes copains, on a envie de te casser la gueule à cause de ça. Et là, du coup, j'ai regardé, je me suis dit, ok, on n'est peut-être pas le même animal. Donc je me suis battu avec ce garçon qui était beaucoup plus fort que moi, en effet, qui m'a cassé la gueule. Puis je reviens vers le premier, qui s'appelait Jacques Padovani. Et je lui dis, dis donc, pourquoi il m'agresse moi et il ne t'agresse pas toi? Et il me dit, parce que toi, tu n'es pas encore allé au bout de la spiritualité, donc tu es à mi-chemin, tu es encore accessible. Tandis que moi, ils ont même plus envie. Et c'est vrai que ce type respirait le calme et la décontraction. Et donc, voilà. Donc, je veux dire que le mi-chemin est un peu inconfortable. Après, peut-être que quand on arrive, qu'on est devenu complètement éclairé, je ne sais pas ce qu'est devenu Jacques Padovani, mais je crois que je suis tombé sur Bouddha, une réincarnation de Bouddha en direct, par le plus pur des hasards, lors d'une colonie de vacances. Après, j'ai fait du yoga et je n'ai plus jamais retrouvé une telle spiritualité, un tel niveau. Et donc, tout ce que j'ai fait en spiritualité est en nostalgie. Ah, c'est un téléphone, c'est peut-être le mien d'ailleurs. Et c'est en nostalgie.
Hop.
Je le coupe aussi pour être sûr. Et c'est en nostalgie de cette rencontre extraordinaire. Je me suis dit, ce type est un type du futur. Quand j'ai vu Jacques Padovani, et lui, il me disait que ça venait d'un prof qui s'appelait Alexandre Van Lisbeth. Et bien plus tard, j'ai rencontré ce Alexandre Van Lisbeth. Et son prof n'avait aucun intérêt. C'était lui. Fin de parenthèse, donc tout ça pour dire la spiritualité, c'est pas le choix facile, c'est même le choix qui va vous faire que vous allez vous couper probablement d'entourage. Puis il faut se méfier aussi des sectes, des gourous et des gens qui abusent de la spiritualité pour vous remettre dans un système d'esclavage. La spiritualité, à mon avis, c'est une expérience personnelle, c'est quelque chose entre vous et vous, et il n'y a que vous pouvez avoir des guides, vous pouvez avoir des gens qui vous expliquent comment vous tenir une posture, comment choisir un moment. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui régit votre vie et qui va décider de ce que vous avez à faire. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être ça la différence entre la spiritualité et la religion. La religion, c'est plein de gens ensemble au même endroit en train de répéter la même prière, dirigés par un type au-dessus qui a un costume. Et la spiritualité, c'est vous tout seul dans votre chambre en train de fermer les yeux et de vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour me faire évoluer ? Voilà.
Est-ce que la spiritualité, quelle qu'elle soit, elle donne forcément une forme de lucidité qui est aussi souffrance, parce que qui dit lucide, vous l'avez expliqué vous-même avec l'expression, c'est souffrance, ne serait-ce que pour vous, par exemple, dans la voie de la Terre, souffrance vis-à-vis de ce monde qui va nulle part, qui exploite tout, qui exploite la planète. Est-ce que ma question donc, qui allait avec, c'était est-ce que la façon, le fait de pouvoir écrire permet aussi d'évacuer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors là, il y a deux questions. Ouais. D'abord, j'aime pas le mot souffrance. Vous voyez, même quand le type m'a cassé la figure là-bas, c'était pas de la souffrance, c'était du questionnement. Il y a un type qui arrive et qui vous casse la figure parce que vous faites de la méditation. Bon, je me dis pourquoi ? Je me dis pas, aïe, j'ai mal. Je vis. De même, non, le mot souffrance, d'ailleurs, devrait être évacué à toute forme de spiritualité. À part, peut-être, on peut avoir quand on fait le lotus un peu mal au genou, mais c'est pas une souffrance, c'est un inconfort. Je me redresse du coup. Par contre, pour répondre à votre deuxième question, c'est-à-dire que moi j'utilise en effet l'écriture et la création comme une manière de faire ma propre spiritualité, de la transmettre aux autres et de faire évacuer toutes les tensions. Évidemment, il y a plein de choses qui m'agacent, qui m'énervent, mais ce n'est pas de la souffrance, c'est plutôt de la prise de conscience. C'est-à-dire, dès le moment où vous prenez conscience du monde tel qu'il est, vous prenez conscience de tout ce qui ne va pas, et il y a un agacement de voir ce qui ne va pas. Quand j'écoute les actualités, je vois bien ce qui se passe actuellement avec Daesh, avec le terrorisme, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de cancer qui est en train de grandir et qui va nous arriver bientôt dans la gueule. Bon, est-ce que c'est de la lucidité ? C'est juste, je recoupe ça par rapport à l'histoire. Je regarde, il y a eu des grandes invasions qui ont démarré après la chute de l'Empire romain. On est en train de redémarrer quelque chose comme ça. Il faut être lucide. Nous allons devoir gérer ça. Et peut-être qu'en Suisse, vous serez plus protégés parce que vous êtes en montagne, en hauteur, mais il y a un moment où les systèmes avec les avions, les trains font que tout est connecté et que quand il y a un système comme ça qui est en train de grandir en, en détruisant tout sur son passage, il faut arriver à s'unir et être clair sur, sur comment on peut contrer ça. On va avoir de toute façon des... On va avoir des défis réels au-delà des défis spirituels et des défis de simple vie et de confort. La génération précédente, ils ont dû faire front au nazisme. Ça, c'était quand même pas simple. Et ce qui s'est passé était avec un niveau de violence et de non-spiritualité quand même qui atteignait des records. Là, on va à nouveau avoir à faire front à une sorte d'attaque contre la conscience, l'intelligence et la spiritualité. Et ça sera à nous de voir si on est courageux et si on est clair. La Deuxième Guerre mondiale a eu comme mérite de révéler à chacun ce qu'il avait dans le ventre, est-ce qu'il était capable, au nom de ses valeurs et de ce qui lui semblait bien, de prendre des risques, ou est-ce qu'on préférait vivre planqué ou voir collabo pour garder le confort. On aura toujours ces trois choix. Rien faire, agir pour ou agir contre. Et en général, la plupart veulent rien faire parce que dès qu'on agit, on prend des risques. Maintenant, est-ce qu'on peut rester ? Est-ce que notre âme va être satisfaite ? C'est peut-être ça la nouvelle question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui fait plaisir à notre âme ? Et je crois que notre âme, elle aime bien quand on ait de la lumière à diffuser et quand on empêche l'ombre de s'agrandir. Mais c'est une opinion personnelle.
Que moi je partage entièrement. Est-ce que mademoiselle, est-ce que...
Vous... Il y avait une question, j'ai vu quelqu'un qui le voit.
Oui. Non, est-ce que vous êtes courageuse de nature ou pas? Non. J'avais envie de vous demander ce que vous avez le plus aimé, ce qui vous a le plus touché dans la voix de la Terre. Mais si vous n'avez pas envie, je vais demander à Bernard Werber pourquoi il a écrit ce livre. C'est comme vous le sentez. Je vais vous passer mon micro.
Il y a peut-être un troisième micro. Non ? Il y a peut-être un troisième micro.
Merci. Alors déjà, moi ça fait longtemps que je l'ai lu parce qu'il est sorti il y a presque un an. Donc,
je sais, pour moi aussi, c'est une vieillerie.
Donc je vais parler plus de ce que je me souviens. Probablement les passages qui m'ont le plus marqué, c'est quand le personnage principal se retrouve en contact direct avec la Terre et qu'il peut dialoguer directement quand il est dans le puits de pétrole. Et se mettre en contact avec la conscience que peut être la planète Terre, j'ai trouvé que c'était assez important. C'est très touchant et... Qu'est-ce que la Terre a comme message à donner à l'espèce humaine ? Parce que finalement, c'est une conscience qui est beaucoup plus élevée, qui est beaucoup plus ancienne, qui a beaucoup plus de sagesse que l'être humain. Et c'est probablement le passage qui m'a le plus touchée dans le livre.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Est-ce que Bernard Werber, vous voulez bien nous donner, pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'histoire, en gros, l'histoire du livre, pour vous montrer, en fait, comme ça.
Alors, oui, c'est vrai, peut-être que je voudrais parler du livre. D'abord, merci mademoiselle de l'avoir lu. Et en effet, ça me fait plaisir que vous me disiez ça parce que quand on sort un livre, on ne sait pas ce qui plaît aux gens et ce qu'ils vont comprendre. Vous êtes pratiquement le premier feedback que j'ai sur ce bouquin, vu que je n'ai pas vu beaucoup d'articles dessus. Donc la question, c'était quoi ?
Ce que je voulais pour le public qui n'a pas encore lu La Voix de la Terre, mais qui va l'acheter tout à l'heure à la dédicace. Non, je plaisantais. En fait, je me dis que le plus simple, c'est peut-être déjà d'expliquer
j'explique
rapidement pour qu'on arrive à la Terre. Et
l'idée, c'était de personnifier la Terre et d'essayer de donner son point de vue. Et on suit en parallèle l'histoire de la Terre qui raconte comment elle perçoit les hommes. Et l'histoire de mon héros, David Wells, qui va comprendre que les pyramides, en fait, servaient à des civilisations anciennes de téléphone pour discuter avec la planète. Et donc tout aboutit en effet à ce passage que citait mademoiselle, qui est le premier dialogue entre la Terre et ses habitants. Et il faut voir une chose, c'est que la Terre, elle nous perçoit comme un chien perçoit des puces. C'est-à-dire, on est les derniers petits parasites qui grattons sur sa peau. Et quand il y en a trop, ben, elle essaie de les évacuer. Donc c'est pour ça que nous avons des tsunamis, des tremblements de terre, nous avons des volcans qui se mettent en marche. C'est tout simplement que la Terre nous perçoit et réagit à toutes les manières que nous avons de l'agresser. Et moi, il me semblait que l'une des choses dont on parle peu, enfin, que la Terre qui peut l'agacer le plus, c'est qu'on lui vole tout son pétrole de plus en plus vite. On est en train de lui pomper son sang noir. Et il y a un moment, ça déséquilibre. De toute façon, petite parenthèse, je pense que le fait de prendre autant de pétrole va changer l'équilibre de la peau de la Terre. C'est-à-dire, là, on pompe de plus en plus vite hein, du pétrole, on trouve de plus en plus de gisements, on va de plus en plus profondément. Et en pompant, on remplace, parce qu'il y a un équilibre physique, on remplace ce pétrole par de l'eau de mer. Or, l'eau de mer et le pétrole, ce n'est pas du tout la même densité. Et donc, au niveau des plaques, parce que toute la surface de la Terre est vivante, c'est comme des écailles, je pense que ça agit. On va avoir donc de plus en plus de tremblements de terre. Donc, c'est une parenthèse. Donc, la Terre, elle perçoit l'homme. L'homme s'aperçoit qu'il ne peut pas sans cesse tout prendre de la Terre sans essayer de savoir comment elle vit. Et ce dialogue va s'instaurer en utilisant les pyramides. Alors, autre petite parenthèse, j'ai découvert en écrivant le livre que la pyramide de Khéops, qui est la plus ancienne et la plus magique de toutes les pyramides, en fait, n'a pas été construite, comme on le dit, il y a 2500 ans par Khéops, mais a été construite il y a 5000 ans par une civilisation dont on ne connaît rien. Et c'est resté en tant que ruine au milieu de la ville qui était en haut du Nil, et les gens contournaient une sorte de, enfin, une pyramide sans jamais se préoccuper, c'est quoi ce truc? Pour eux, c'était juste des matériaux, ils piquaient les matériaux pour construire leur baraque. Et tout d'un coup, Khéops a trouvé le passage qui permet de rentrer à l'intérieur, et là, ils ont découvert un couloir, et ils ont découvert la loge. Et Khéops, il a juste dit, bah tiens, je vais en faire mon tombeau. Mais il ne l'a pas construit. De toute façon, ils étaient incapables à l'époque de construire des pyramides, parce qu'il y a des connaissances architecturales qui n'ont été découvertes que, on va dire, faudrait attendre la Renaissance pour arriver à fabriquer, même pas la... Même de nos jours, ça serait très très difficile de faire une pyramide. Parce qu'elle est orientée sur les quatre faces, sur les quatre points cardinaux, la construction des couloirs en angle, tout ça. On sait à peine le faire de nos jours et il y a des blocs de 17 tonnes qu'on ne sait pas déplacer. Il faudrait des grues, des alliances de grues, ça serait vraiment très compliqué. Donc qu'ils aient fait ça il y a 2500 ans, c'est impossible. Même avec des milliers d'esclaves, il y a un moment... On ne peut pas remonter des blocs de 17 tonnes sur des bateaux sur le Nil, c'est pas possible. Et surtout, il n'y a pas de ciment, donc c'est juste un grand jeu de Tetris, tout est emboîté à l'intérieur, et il faut fabriquer, chaque brique est différente, il n'y a pas deux briques similaires. Donc, je découvre Khéops, je découvre que ça a été construit il y a 5000 ans, je découvre que ça sert à quelque chose qu'on ignore, et j'imaginais en tant que romancier que c'était une sorte de téléphone pour discuter avec la Terre, tout en prenant conscience que la Terre... actuellement, a envie de nous parler. Elle a envie de nous parler parce qu'elle a ses propres désirs de planète et qu'elle sent que nous sommes en croissance démographique non contrôlée et que si ça continue, ben on va tuer toutes les autres espèces animales, on va détruire toutes les forêts et on va se retrouver 10 milliards de couillons à boire du coca et à regarder la télévision et à devenir un peu... un secret story, voilà. On va être 10 milliards à éclater de rire lorsque la blonde va dire qu'elle ne sait pas, où est ce qu'est la lune ou je sais plus, il racontait des tas de trucs marrants hier. C'est vrai que c'est drôle de voir autant de bêtises, mais bon, on doit pouvoir trouver mieux comme spectacle. Ben, non, alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un vous dire qu'il y a vraiment du travail. Il y avait une émission qui s'appelle Qui veut gagner des millions. Vous regardez ça peut-être. Et, bon, ben, je vais vous raconter cet épisode. Donc c'est Jean-Pierre Foucault. Il pose comme question qu'est-ce qui tourne autour de la Terre? Et le type qui répond est un instituteur, un chauve à lunettes comme moi, avec une allure plutôt intello. Et le type dit qu'est-ce qui tourne autour de la Terre? Alors déjà, il prend un air comme ça, très gêné. Puis, les propositions, c'est qu'il y a quatre points. A, le Soleil. B, la Lune. C, Mars. D, Vénus. Et le type, il commence par dire, c'est pas facile comme question. Et il dit, je vais demander l'avis du public. Alors, il y avait le public, vous connaissez l'émission, là.
On le fait aussi, on demande l'avis du public. Je plaisante, je vais pas vous faire ça.
Ça, oui. Je pense qu'il y en a qui se tromperaient.
Moi, oui. Moi, déjà, oui.
Alors, je vais vous dire ce qui est sorti. Non, j'ose pas, je pense. Je vous le demande pas. Donc, A, le Soleil, B, la Lune, C, Mars et D, Vénus. Je prends l'hypothèse que vous savez, hein, tant pis. Et le public donc, vote, et ça tombe précisément, à peu près en respectant l'ordre que je vais vous donner, c'est-à-dire A, le Soleil, qui c'est à peu près 60% pensent que c'est le Soleil, 30% pensent que c'est la Lune, et après c'est 10 et 5, enfin je ne sais pas en nombre. On doit être à 5% et 3%, voilà. Non, 7% et 3%, voilà. Et le type, il dit, ouais, évidemment, ça a l'air le soleil, mais je vais prendre le 50-50, dire s'il était dans le doute. Et là, Jean-Pierre Foucault lui dit, vous savez, ça se peut que ça tombe soleil et lune, et dans ce cas, vous ne serez pas avancé, parce que vous aurez... Donc, moi, à votre place, tant pis, je me lancerai pour ne pas gaspiller mes atouts. Et le type, il dit, OK, ben, je vais suivre le public, 60% le soleil. Et il y a un plan où on voit juste sa fille, qui est... Et le type, bon, il a perdu, c'était... Bon, je vous donne la réponse, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Le répéter à personne. Hein. Et le type est dans... Zut, je m'en doutais. Et là, je me suis dit, OK, il y a du boulot. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut savoir quand même que ça, c'était plutôt des gens éduqués, on va dire. Mais vu qu'il y en a en plus qui ne sont pas éduqués sur la majorité de la planète, je pense que si on avait fait le test sur la planète, c'était 90% de soleil. Parce que tout simplement, les gens voient le soleil qui fait ça dans le ciel tous les jours, et quand on leur demande qu'est-ce qui tourne autour de la Terre, ben, on le voit. OK, et le message de Copernic a mis quand même beaucoup de temps à arriver. Il n'est pas arrivé. Maintenant... Je vais faire un petit test avec vous, mais je souris bêtement, mais ça m'a donné l'idée d'une autre question que vous allez pouvoir poser pour avoir l'air intelligent ce soir par rapport à votre famille. Je vous l'offre. Sachant que la Lune se lève à l'est et se couche à l'ouest. Sachant que le soleil.
Parce que la Lune, on l'a jamais su.
Excusez-moi. Sachant que. Non, c'est pas on l'a jamais su. Sachant que le soleil se lève à l'est. Et se couche à l'ouest, de quel des quatre points cardinaux se lève la Lune? Ah, c'est bon, on ne l'a jamais su parce qu'il y a une vraie réponse et c'est l'une des quatre. Alors je vais vous la poser à vous et vous allez lever la main au fur et à mesure, d'accord? Vous avez déjà posé vous la question. Parce que c'est une des quatre réponses. Hein. Donc je répète, sachant que le soleil se lève à l'est, vous pouvez vous donner des trucs entre vous. Hein. Sachant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, de quel point cardinal se lève la lune? Vous êtes prêts? Vous levez la main, mais il faut répondre à un des quatre. Attendez. Alors je vais commencer. Non, vous levez qu'une fois la main. Ensuite, vous regardez pas ce que font les autres, si vous allez vous regarder. Alors, qui c'est qui pense que la lune se lève au sud? 1, 2, 3, 4. Qui c'est qui pense que la lune se lève au nord? Personne. Qui c'est qui pense que la lune se lève à l'est? Grande majorité. Qui c'est qui pense que la lune se lève à l'ouest? Une petite minorité. Bon ben... c'est ceux qui ont la grande majorité qui ont raison. Ouf, je suis tombé sur un public intelligent. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que tout ce qui apparaît dans le ciel se lève à l'est dans la mesure où la Terre tourne. Je vous donne le truc. Hein. Mais vu que c'est la Terre qui tourne, c'est le ciel il bouge pas. Donc, c'est... Voilà. Mais vous êtes plutôt dans... j'ai un public intelligent. Oui, c'est parce que vous lisez mes livres, pour certains. Mais tout ça pour dire que la diffusion de choses simples est très très longue et très compliquée, y compris... moi, j'étais une fois dans un taxi à Londres, et tout d'un coup, il m'explique que Lady Di avait été tuée par un complot des services secrets anglais, et qu'on n'était pas informés et tout, le taxi. Hein. Puis il me dit, de toute façon, on ne raconte que des conneries, parce que, par exemple, il y a des gens qui croient que l'homme a marché sur la Lune. Alors, je lui fais, ah ouais, c'est vrai, je fais partie de ces naïfs. Et il me dit, mais non, on sait que c'est un complot des services secrets américains pour nous faire croire que... Mais de toute façon, on ne peut pas marcher sur la Lune pour une raison simple, c'est parce que c'est l'œil de Fatima. Alors j'ai dit, ah, je ne savais pas, on apprend des choses dans les taxis. Et il me dit, ben oui, on ne pourra jamais marcher sur la Lune parce que c'est sur l'œil de Fatima et on ne voyait pas. Et il me dit, heureusement que nous, les Pakistanais, les Pakistanais, on sait tout ça parce que nous, on a les vraies infos. On n'est pas comme vous qui baignez dans la propagande américano-sioniste en permanence et qui vivez dans le mensonge. Et je me suis dit, en fait, le nombre de gens qui sont dans un système comme ça, qui est beaucoup plus simple parce que beaucoup plus rassurant, et, c'est-à-dire dès le moment où vous êtes dans la croyance, c'est beaucoup plus confortable que dès le moment où vous êtes dans la recherche de la vérité, voire la spiritualité, qui est complètement inconfortable. Et on en revient à ce système de Matrix. C'est-à-dire que si on vous dit quelque chose de faux, et ce mensonge est beaucoup plus intéressant que la vérité, parce que la vérité, elle bouge tout le temps, et la vérité va être remise en cause. La vérité entraîne le doute. Alors que la croyance, ben hop, c'est stable, c'est carré, ça bouge pas, et il n'y a pas de dialogue. Donc c'est simple. Donc il faut être conscient que le choix de la vérité est un choix... pas simple et inconfortable.
Je vais vous laisser bientôt le temps pour les questions, si vous en avez, mais je voudrais, parce que moi j'essaye de suivre les infos et de donner toutes les infos, surtout sur vos livres. Nous avons dit que nous parlerons un petit peu rapidement du prochain, qui sort le 29 septembre. Est-ce que vous pouvez, ou vous voulez, ou c'est un secret, nous dire non. Le titre, et en gros, de... Vers où allez-vous quelle est l'idée de ce livre-là, du dernier?
Alors d'abord, je me demandais, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là hier, à la première conférence? J'en ai reconnu certains. 1, 2, 3. Bon, alors ça va, je peux déflorer un peu. Parce que sinon, je me disais, je vais me répéter pour eux. Donc le prochain livre s'appelle « Sixième sommeil », et le thème, c'est le sommeil. Alors je vais vous poser une question. Qui c'est qui note ses rêves? Par écrit. 1, 2, 3. Qui c'est qui se souvient de ses rêves? Qui se souvient de celui de cette nuit? Ah. Madame, vous pouvez me le raconter?
Juste comme ça. En fait, ça. Il est psychanalyste aussi, Bernard Werber.
Non, allez-y, madame. C'est juste pour voir comment arrivent les rêves. Après, je vais expliquer pour apprendre. Juste comme ça, ça parlait de quoi, votre rêve? D'accord. Et vous en êtes rappelé au matin? D'accord. Alors, le sixième sommeil parle du fait qu'en fait, on a 5 rêves. On fait 5 descentes. En fait, il y a 5 stades du sommeil. Réellement, ça, c'est scientifique. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil encore plus profond, sommeil paradoxal. Ça fait 5 stades. Et tous les soirs, on fait ça, 5 descentes. Au moment où vous êtes en sommeil paradoxal, vous rêvez. Et donc, vous avez 5 petits films qui vous arrivent. Et vous vous rappelez en général du dernier, pour ceux qui s'en rappellent. Maintenant, en fait, si vous étiez avec, peut-être maintenant que je vous l'ai dit, il faut savoir, il y avait d'autres films avant. Donc vous pouvez peut-être, avec votre mémoire, vous dire, hop, le premier film, je le range dans ma mémoire, le deuxième film, je le range dans ma mémoire, et donc dans le long matin, vous devriez avoir 5 films. je suis allé dans ce livre, Sixième Sommeil, c'est un personnage qui pense qu'il peut y avoir un stade au-dessus, qui est un sixième niveau, ce qu'il appelle le sixième sommeil, qui est un niveau où on va encore plus loin dans le travail de reconstruction qu'amènent les rêves, et qu'à partir de cet endroit, on peut en effet remonter le temps, et on peut se retrouver à connecter à son âme d'enfant. Voilà, je vais résumer ça comme ça. Et c'est un livre dans lequel je me suis aperçu que, en fait, le sommeil est une zone passionnante. On passe un tiers de notre vie à dormir, et on considère juste qu'on ferme les yeux, et qu'on va ouvrir les yeux, ce temps n'a pas été du tout rentabilisé, n'a servi à rien. Or, depuis peu, on sait qu'on peut maîtriser une partie du sommeil par ce qu'on appelle rêve lucide. Il y a des gens qui pratiquent du rêve lucide ici. Hier, il y en avait un. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. C'est quand vous êtes en train de dormir, vous rêvez, et vous apercevez que vous pouvez... Enfin, vous dites dans votre rêve, je suis en train de rêver. Et au lieu de vous dire, je suis en train de rêver et je me réveille, vous dites, je suis en train de rêver et je prends le contrôle de mon rêve. À partir de là, normalement, le premier acte du rêveur lucide, consiste à voler. Et donc, le rêve de l'envol est le premier moment où on commence à maîtriser son rêve. Vous pouvez le tester dès ce soir. C'est-à-dire, avant de vous coucher, vous dites juste... Bon, il nous racontait quoi comme connerie, l'écrivain, là ? Bon, je vais essayer, si je m'aperçois que je rêve, de m'envoler. Et là, vous allez faire cette expérience, vous allez probablement pas y arriver la première fois, mais vous allez y arriver un jour, forcément. Et quand vous allez découvrir le rêve lucide, vous allez vous apercevoir que vous pouvez faire des choses extraordinaires. Par exemple, vivre des scénarios dont votre âme a besoin pour avancer. Déjà, vous pouvez faire ça. Par exemple, vous avez un questionnement sentimental ou professionnel. Avant de vous coucher, vous posez la question. Il y a de fortes chances que le lendemain matin, vous ayez la réponse. Parce que votre inconscient va se mettre à faire le boulot. Et votre inconscient, il n'est pas influencé par la peur, il n'est pas influencé par les publicités, par le monde, par le regard des autres. Votre inconscient est un truc libre qui, lui, sait ce qu'il faut faire et qui sait comment... agir au mieux pour vous. Et donc, dans le rêve lucide, vous allez permettre à votre inconscient de vous aider. Ça vous parle ou ça vous semble un peu plané ? Il y a 20%.
Vous avez une question ?
Comment ? Voilà. La nuit porte conseil. Eh ben, c'est... Oui, est-ce qu'il y en a déjà qui ont fait ça, de se coucher en se posant une question et d'avoir la réponse le lendemain ? Bon, vous avez eu la réponse ? En tout cas, vous pouvez recommencer. De toute manière, ça coûte rien. Alors, c'est pour ça que c'est pas étudié, parce qu'il n'y a pas d'économie autour. Les industries pharmaceutiques, tout ce qu'elles cherchent, c'est à vendre des produits. Donc, autour du sommeil, ce qu'il y a comme étude, c'est sur les somnifères. Ne prenez jamais de somnifères. Qui c'est qui prend des somnifères ? C'est pas honteux, mais voilà. Je sais. Mais moi-même, j'ai écrit le livre parce que j'arrivais pas à dormir, mais je ne suis pas tombé dans ce panneau-là. Je veux dire, pourquoi il ne faut pas prendre somnifères, c'est parce que ça enlève les rêves. Et les rêves, c'est le moyen qu'a notre cerveau pour se réinitialiser, se reconstruire. Ça, c'est pas lié aux somnifères, c'est juste lié à l'attention. Il n'y a pas de nécessité de se rappeler de ses rêves. C'est juste, vous voulez vous dire, chouette, il y a des fois où je m'en rappelle. Mais vous ne devez pas vous dire, zut, il y a des fois où je ne m'en rappelle pas. Oui, on a besoin de rêver. Ben, sauf, il y a certaines personnes, il y a des formes de maladie où on ne rêve pas. Mais en général, ces personnes deviennent très nerveuses. Et ça peut terminer en dépression, ça peut terminer en problème psychiatrique. Le rêve, c'est comme quand vous rebootez votre ordinateur. C'est-à-dire, ça... efface toutes les conneries qu'on vous a racontées et ça vous rappelle la réalité. C'est pour ça que d'ailleurs les religions vous font répéter des choses et vous disent ils agissent par un système de rabâchage, enfin pour pour les religions fanatiques, on va dire, c'est surtout pour que vous n'ayez pas de libre arbitre et que vous soyez vraiment axé dans l'obéissance. Le rêve vous libère. C'est votre... D'abord, le cauchemar a une fonction. Vous préparez, par exemple, à quelque chose de pénible. On s'est aperçu que les femmes enceintes rêvaient systématiquement que leur enfant mourait. Enfin, celles qui racontent ça. Précisément pour, émotionnellement, préparer la mère à cet événement. Si ça arrive, elle l'a déjà vécu en rêve. Et donc, c'est un peu plus acceptable. Voilà. Donc, c'est une fonction du rêve qui est de rendre votre vie plus confortable. Mais moi, je sais, par exemple, chaque fois que je sais qu'il y a... Enfin, quand j'étais jeune, je faisais des examens, je rêvais que j'échouais. Tous, toujours, toujours. Je rêvais avant le bac, avant ma fac de droit, j'ai toujours rêvé, la veille des examens, j'échoue toutes mes études et je rate ma vie. C'est tout le temps, ça revenait tout le temps, voilà. Ça fait partie de l'inconscient aussi, des angoisses. Mais... Non, mais même les angoisses servent à quelque chose. Tout sert. Notre cerveau, enfin notre inconscient, j'ai pas d'autre terme, enfin le petit truc qu'il y a au fond de nous, notre âme, voilà, Gemini Cricket, il est là pour nous aider. Maintenant, par moments, c'est plus utile, c'est plus efficace pour nous aider de nous faire peur. Alors nous, on dit, on a fait un cauchemar. Non, c'est Gemini Cricket qui a décidé qu'en nous envoyant une scène terrible, on allait un peu mieux comprendre, parce que s'il nous envoie un truc sympa, naïf, on va rien comprendre. Ouais. Oui. Alors attendez, vous allez prendre le micro, parce que je pense que derrière, ils entendent juste bleu, 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 bleu.
Et après, on a deux autres questions aussi, voilà. À gauche et à droite.
Vous n'avez jamais tenté de retrouver ce jeune homme
que j'ai été?
Non, non, je pense que vous l'êtes toujours. Mais cet ami à 13 ans qui...
Ah, Jacques Padovani, si vous... Alors, il s'appelle Jacques Padovani, j'ai mis sur mon site internet, si quelqu'un le connaît. Ah oui, Padovani, c'est pas doux en plus, ça peut être...
Et vous ne l'avez pas retrouvé?
Non.
Ou il ne veut plus vous voir?
Ah non, 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 je pense que pour lui, c'était juste une amitié. C'est-à-dire, c'était à la ville d'hier, j'avais 13 ans, donc c'était... dans les années 1975, quelque chose comme ça.
Oui, on connaît votre âge.
Et voilà. Et lui, il disait le Raja Yoga. Non, c'était André Van Lisbeth. Et donc, pour terminer l'histoire, donc c'était, j'ai donné une conférence sur les Thanatonautes. Et à la fin, il y a André Van Lisbeth qui arrive, qui me dit « Je suis André Van Lisbeth ». Et je lui ai dit « Mais vous savez que tout ce que j'ai écrit est issu de la formation que m'a apporté un de vos élèves. » Et je lui cite Jacques Padovani, et il ne s'en rappelait pas. Et il me dit, mais j'ai appris tellement de choses extraordinaires avec vos bouquins. C'est comme s'il n'avait pas entendu la phrase, je lui ai dit, mais ça vient de vous. Et voilà. Donc, par moments, le disciple est plus fort que le maître. Enfin, en tout cas, le disciple d'André Van Lisbeth était plus fort qu'André Van Lisbeth. Et quant à moi, j'étais le disciple de ce type-là. Enfin, le disciple, ce qui m'a appris, c'est à méditer. Mais, alors, méditer, ce que je disais hier, il faut le savoir, ça ne marche jamais. Ça met tout le monde à l'aise. Tous les gens qui essaient de méditer disent « Zut, j'y arrive pas. Hein, je vous mets à l'aise, personne n'y arrive. » Même les grands ils tendent vers le moment où on pense à rien, mais il y a toujours un moment où on pense à quelque chose. Ne serait-ce que « Tiens, chouette, je pense à rien. » qui est déjà une pensée. Non, parce que il y a un moment où on est déconnecté du monde, c'est le rêve, mais la méditation, c'est quelque chose qui tend vers une sorte de pause, mais qui ne marche pas. Oui.
C'est un peu...
Il y a d'autres questions.
Vous aviez une question derrière, oui.
Oui.
C'était juste une réflexion, justement, sur les rêves. Moi, je fais toujours des rêves un peu fantastiques, mais il y a un passage entre le rêve où vous êtes parti... Et puis après, peut-être quelqu'un veut vous réveiller ou comme ça. Et ça dure encore cet état où on est entre le sommeil puis la réalité des choses. Puis on se dit, tiens, ouh, je vais vite l'écrire ou comme ça. Mais comme on est un peu dans ce charme, on croit qu'on va avoir le temps. Puis après, on se réveille complètement. Puis pff, souvent, il s'en va. Hein, c'est, je sais pas.
Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir un carnet et un crayon prêt sur la table de chevet. Parce que souvent, on dit, ah, je vais le noter, je vais pas l'oublier, je vais le noter, je vais pas l'oublier. Ah, zut, j'ai oublié. C'est ça. Ben, j'ai eu ça ce matin. Moi, je me rappelle pas de mes rêves de ce matin, mais j'avais presque. Mais je considère que quand j'arrive à me rappeler, c'est un cadeau, quoi. C'est vraiment chouette. Mais bon, ça peut pas marcher à tous les coups. J'ai l'impression que c'est un petit oiseau, chaque fois que c'est au point de s'envoler. Et j'arrive à le choper les plumes avant qu'il décolle. Quelques plumes. Autre question ? Alors attendez, le micro... Bon, où vous voulez. Le micro était plus près de là, il ne peut pas faire...
Ouais. Merci. Alors moi, mon livre préféré, c'était... Enfin, c'est toujours... L'Empire des Anges. Mm-hmm. J'ai adoré ce bouquin. Et puis, vous l'avez écrit avant l'incident des tours à New York ?
Oui, 2 ans avant.
2 ans avant, et je me rappelle de cette description quand il y a le jumbo qui arrivait dans les tours, et puis l'homme qui était dans son bureau et qui voyait arriver le jumbo et qui a croisé le regard du pilote, puis qu'après tout s'est éclaté. Et je voulais savoir comment vous avez été inspiré pour écrire ce livre, même si je crois que c'est à la fin ou suite à une interview que vous avez dit « Et si c'était vrai ?»
C'est un autre auteur qui a dit ça.
Non, c'est pas un autre auteur.
C'est vrai. C'est-à-dire, moi, j'étais journaliste, donc je suis habitué à écouter les actualités. Maintenant, tout le monde, on est tous assaillis par les actualités. Donc, chaque fois que je vois les actualités, j'essaie de sentir ce qui va se passer. Donc, il m'a semblé que déjà. Finalement, il y avait peu de problèmes avec les avions par rapport au nombre d'avions. Il y a en permanence 5000 avions en l'air. L'avion est le mode de transport le plus sûr qui existe. Or, je me dis, à force qu'il y ait des avions, il y a forcément des moments où il va y avoir des problèmes avec ces avions. Il n'y avait pas le lien encore avec le fanatisme musulman. Mais après... Les problèmes de fanatisme musulman, j'en parle notamment dans la trilogie de Troisième Humanité, La Voix de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a quand même... C'est quelque chose qui est inscrit depuis longtemps. Donc c'est... Notre travail d'auteur de science-fiction consiste à voir venir les problèmes avant qu'ils arrivent. Maintenant, je n'ai pas de don de prémonition. Par contre, en tant que joueur d'échecs, je vois bien que ce qui se passe dans la partie, quand c'est comme ça, eh bien, il va probablement se passer ça. Là. Donc là, sur les avions, j'avais juste vu qu'on va finir par avoir des pépins avec des avions. Et sur le problème de l'islam, dont je parle un peu dans La Voix de la Terre, j'avais prévu déjà bien avant, parce que j'ai écrit ça quand même il y a 3 ans, avant que ce soit diffusé, ça prend du temps, il y a quand même un choc de civilisation, je n'ai pas d'autres termes, que nous allons devoir gérer d'une manière ou d'une autre, mais nous n'allons pas pouvoir y échapper.
Et puis, oui. Par rapport aux anges, tout ce que vous avez écrit sur les anges, moi j'ai trouvé ça fabuleux.
C'est votre ange qui a trouvé ça fabuleux.
C'est peut-être mon âme, je sais pas, je me disais. Justement, c'est
j'aime bien cette idée qu'on a un ange, quelqu'un, le Gemini Cricket, là, pour reprendre l'expression. En plus, il y a un Gemini Cricket intérieur, il y a un Gemini Cricket extérieur. Et il y a des entités qui nous veulent du bien, des entités. On peut recevoir de l'aide, mais il ne faut pas se brancher sur n'importe quelle aide, parce que des fois, il y a des... Alors j'ai une amie qui s'appelle Patricia Daré, qui parle beaucoup avec les morts, les esprits et tout. Elle dit, par moments, il y a des gens se branchent sur, on va dire, des esprits, des amérantes ou des trucs comme ça, par la prière ou... Et ils tombent sur des entités qui ne leur veulent pas du bien, qui se font passer pour des entités qui leur veulent du bien. Donc il faut y aller avec des pincettes aussi là-dedans. Il vaut mieux se brancher sur son inconscient que sur son ange gardien. Mais il y a peut-être, malgré tout, quelqu'un qui nous aide pour ne pas faire trop de bêtises. Et il faut être à l'écoute, mais sans être sous influence.
Merci.
Non. Autre question ? Oui,
monsieur.
Et monsieur devant qui avait demandé.
Bien, merci. Bonjour. Oui, vous voulez dire dans les Thanatonautes, vous parlez des
chocs avec l'Orient ?
Oui, enfin de ceux qui vont couper les cordes et qui font des actes, forme d'attentat comme ça contre, parce que c'est effectivement pas accepté qu'on puisse chercher de cette façon la vérité.
Il y aura toujours une opposition entre la religion et la spiritualité, et il y a actuellement un retour en force de l'islam contre on va dire la spiritualité et la science. Donc c'est quelque chose qu'on va y assister, parce que c'est 1,7 milliard de personnes qui forment un égrégore puissant. Et il y a une phrase que je crois qu'il y a de Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, mais quand ils sont très très nombreux, c'est pas facile de faire entendre la vérité. Et c'est peut-être le défi de notre génération, c'est la lutte contre l'obscurantisme. Mais lisez le journal ce matin, ensuite d'hier, vous verrez, l'obscurantisme gagne tous les jours, et la spiritualité ne touche malgré tout qu'une infime minorité de la population. C'est des gens éduqués, c'est des gens qui ont une démarche personnelle autonome, c'est des gens indépendants, et il n'y en a pas tant que ça. C'est mes lecteurs. C'est vous. Mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus, parce qu'on ne peut pas être heureux juste à obéir à un type qui dit « allez vous faire exploser au milieu d'une école ». Je ne vois pas à quel moment il peut y avoir du plaisir là-dedans, si ce n'est le plaisir de l'obéissance et le plaisir de la soumission. Mais bon, c'est limité. Hein. On ne va pas aller loin avec ça.
Sinon, je voulais savoir ce que vous pensez. Enfin, moi, j'ai l'impression que je me ressource la nuit dans une vie parallèle.
C'est un peu le thème du sixième sommeil.
Ah,
c'est un héros qui apprend à se ressourcer dans un monde parallèle. Je crois, oui. Je crois qu'on se ressource.
Donc on peut vivre plusieurs vies en même temps.
En tout cas, ce que je sais, c'est que si on est
incarnation en même temps.
Oui, je crois. Mais je crois que si on n'est que dans cette vie-ci, si on n'est que dans ce monde-ci, avec uniquement des enjeux de santé, de famille et de travail, au bout d'un moment, on est dans un tout petit monde dans lequel on ne peut pas déployer ses ailes. Et on est juste en train de gérer. On fait que réparer les choses qui ne vont pas. Et on fait juste qu'attendre la mort. Je reviens au discours du début. C'est-à-dire, finalement, il faut se demander, au-delà de tous mes petits soucis personnels, qu'est-ce que je peux faire de vraiment ambitieux et grandiose qui fasse bouger les choses. Tous, on en est là. Mais oui, j'espère que dans cette vie parallèle, ça nous rappelle qu'on peut faire des choses. On est libre.
Et une autre question, est-ce que vous pensez que la politique actuelle peut permettre vraiment de changer ce monde qui va vers l'impérialisme américain, vers un système complètement où on devient des, on va dire...
Je suis plus inquiet de l'impérialisme chinois que de l'impérialisme américain. En plus, pour l'instant, il me semble que les Américains, ayant posé en effet des codes, ça a plutôt maintenu l'Europe, en tout cas, dans la paix. Les politiciens, le problème, c'est qu'ils n'ont plus tellement de pouvoir. Ils dépendent en effet des groupes financiers, des banques et d'un système qui vient à les bouffer. Mais contre, si le choix c'est entre la religion ou le capitalisme, c'est vrai qu'on est mal barré, mais malgré tout, le capitalisme laisse sa chance à tout le monde. La religion, c'est juste un prêtre qui vous dit Dieu a dit que. Or, il n'a jamais rencontré Dieu. Alors. Parle au nom de quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que notre époque est la période la plus intéressante où il y a le plus de possibilités. On n'est pas du tout dans une période d'angoisse. Enfin, on est dans une période d'inquiétude, mais il ne faut pas s'angoisser. J'ai jamais vu autant de possibilités pour apprendre et pour évoluer. Regardez, nos parents, ils vivaient quand même beaucoup plus dans la peur que nous. Et alors nos grands-parents et tous nos ancêtres vivaient dans la peur et des maladies, et du candidaton, et de la politique, et de tout, ils vivaient dans la terreur. Nous sommes la première génération qui commence à être un peu plus décontractée. Et en étant un peu plus décontractée, en même temps, il y a plein de dangers. Donc il y a le plus de noir et le plus de blanc, le plus de lumière et le plus de ténèbres, et le plus de choix C'est-à-dire notre âme va pouvoir vraiment choisir où elle veut aller. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. Donc à nous d'utiliser ce potentiel.
Pour les Merci. Cinq dernières Merci. Minutes, voilà, donc il y aura juste quelques questions. Donc voilà, je voulais vous demander de passer le micro.
Il y a madame qui attend depuis un
plusieurs
moment.
Personnes.
Quoi ? Oui, non, c'est juste, je la vois, elle se lève la main et...
Non, je suis restée patiente.
Allez-y.
J'ai entendu plusieurs fois ce matin encore le mot vérité dans vos propos, et je crois avoir lu ou vous avoir entendu une fois disant la vérité est dans les livres, parce que la vérité est dans les livres, ce que l'on peut évidemment partager, et la vérité de chacun, évidemment, c'est selon ce qui va faire écho. Pour vous, ce serait quel livre, au singulier ou au pluriel, dans lesquels vous... Vous allez chercher la source de votre vérité.
Ah, si je dois vous donner... Alors d'abord, vérité, je mets entre guillemets ce mot-là, votre vérité personnelle, parce que pour chacun, il y a une vérité
exactement,
différente.
Exactement.
Moi, il y a un livre dans lequel je pense qu'il n'y a pas de risque, je vous envoie dessus, il n'y a pas de risque que ça entraîne le fanatisme ni la connerie, c'est le Tao Te Ching. Vous voyez, c'est bizarre, hein, mais je cherchais mes sources à 200 ans avant Jésus-Christ. Le Tao Te Ching m'a l'air un livre qui incite à l'humour, au détachement, à la perspective, et dans lequel il y a une vision humble. Je suis toujours gêné par les livres sacrés qui ont tellement de prétentions de « voilà, c'est comme ça, et si vous ne croyez pas, c'est que vous êtes un connard ». Et le Tao Te Ching dit, ça se peut que vous compreniez, ça se peut que vous ne compreniez pas, ça se peut que le monde soit comme ci, ça se peut que le monde soit comme ça. Donc ça vous renvoie à la spiritualité. Le Lao Tzu, qui est censé avoir écrit le Tao Te Ching, le mot Lao Tzu signifie le vieil homme. Donc en fait, c'est un livre anonyme. On ne sait pas d'où c'est sorti. Moi, quand j'ai lu ça, c'est rentré en phase avec tout ce que je sentais. Il y a Jonathan Livingston, le Goéland, pour ceux qui ne connaissent pas, qui me semble aussi un livre... exemple de possibilité de fanatisme ou de bêtise. Après, sur l'évolution de l'âme, moi j'ai bien aimé Des fleurs pour Algernon, mais tel que je l'ai perçu, et vous pouvez le percevoir. Vous avez vu Des fleurs pour Algernon, non ? Jetez un coup d'œil sur le livre. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Mais c'est pas la vérité dans les livres, c'est-à-dire que d'abord tous les livres sont pas bons, hein. Mein Kampf a priori c'est un livre, c'est pas une vérité. La vérité, il y a certaines personnes qui à un moment, je crois, pigent des choses et diffusent de la lumière. Il faut les repérer et aller vers les bons et reconnaître les bons des pas bons. Je pense qu'un type comme Jésus-Christ, c'est parti des types qui avaient vraiment compris beaucoup de choses. Mais il a dit cette phrase qui est extraordinaire et qui a été oubliée, qui est « Je ne suis pas venu pour créer une religion, je suis venu pour rappeler la loi de nos pères à ceux qui l'ont oubliée. » Donc c'est-à-dire c'est un type qui, à son époque, luttait contre l'invasion romaine, et il est venu pour rappeler les lois du judaïsme des origines à un pays qui était en train, sous l'influence des Romains, de devenir collabo des Romains. Donc je trouve bien de rappeler cette chose-là, c'est-à-dire que Jésus-Christ, tout comme Bouddha, ne sont pas venus pour créer des religions, ils sont venus pour diffuser de la spiritualité, de la sagesse. Et c'est leur message d'origine qu'il est intéressant de retrouver. Après, qu'on tue au nom du christianisme ou du bouddhisme, ça me semble une anomalie, de même qu'il s'est créé des écoles taoïstes avec des gens qui sont mis à tuer au nom du Tao. Mais bon... Ça veut dire juste qu'ils n'ont rien compris et qu'ils utilisent ce drapeau-là. Mais voilà. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce livre, le Tao Te Ching, Jonathan Livingston Goéland, Des fleurs pour Algernon. Et de manière générale, Siddhartha aussi, quand même, le bouddhisme, c'est vachement bien. Le bouddhisme apprend quelque chose comme le lâcher-prise, c'est-à-dire... si vous êtes tout le temps crispé, au bout d'un moment, vous ratez votre objectif. C'est comme ça que je le perçois. Le vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire au lieu tout le temps d'être projeté dans qu'est-ce qu'on va faire après, de se dire qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement. Et le troisième élément, je ne m'en rappelle plus parce que je commence à avoir des trous de mémoire vu mon âge avancé. Quoi là ? Ouais, affronter ses peurs, c'est de lâcher prise. Je le mets dedans. Non, ici maintenant, bon, lâcher prise... Et si un niveau de compassion, la compassion, c'est-à-dire plutôt que notre compassion, l'empathie, la possibilité de diffuser sa pensée au-delà de soi-même pour percevoir ce que vivent les autres. En tout cas, je ne crois pas qu'il y a besoin d'être bouddhiste, de se convertir à une religion. C'est juste lire et voir si ça rentre en résonance avec ses propres convictions et si ça nous apporte quelque chose. Sinon, vous pouvez me lire aussi, ça rentrera pour certains en résonance ou pas. Et après, ça vous donnera envie d'aller de faire différentes choses. Je crois que chaque personne perçoit un livre différemment en fonction de ses propres attentes. Mais quand les attentes rentrent en correspondance avec des choses qui ont réellement voulu être données, il y a un moment de merveilleux qui peut être extraordinaire. Et je crois que sur chaque livre, il y a 20% des gens qui ont ce petit côté merveilleux parce qu'ils étaient prêts à entendre le message et parce que le message tel qu'il est arrivé était clair et ça a donné cette rencontre-là.
Écoutez, vous m'avez fait, Bernard Werber, la meilleure transition parce que le temps, on pourrait l'écouter des heures et même des jours, mais le temps de notre rencontre est malheureusement fini pour ce matin. Nous avons une petite rencontre d'une demi-heure avec Bernard Werber cet après-midi et il sera encore disponible pour les dédicaces sur le stand. J'ai vu que parmi vous, il y avait encore quelques questions. C'est aussi l'occasion d'aller le voir pendant la dédicace et de le poser. Je trouve que les dernières phrases de Bernard Werber sont exactement ce qu'il faut pour que vous ayez pour que vous rentriez, si vous ne l'avez pas encore fait, dans son univers avec ce livre-là, La Voix de la Terre, ou avec les précédents. De toute façon, je vais vous donner une petite astuce pour la dédicace, vous la connaissez peut-être déjà. Lorsque vous allez voir un auteur, demandez-lui ce qu'il vous conseille, surtout si vous ne l'avez pas du tout lu, pour commencer, pour découvrir son univers. Moi, j'ai été un peu frustrée, peut-être un peu comme vous, de ne pas avoir eu assez le temps pour découvrir l'homme encore plus qui se cache derrière, pour découvrir son parcours d'écrivain. Comment peut-on, du petit enfant qui écrivait une nouvelle à 8 ans, finir cette immense star mondiale? Comment se créent tous ces mondes? Je sais que vous êtes très modeste, on l'a vu, à chaque fois que j'ai essayé de parler de vos succès, ou de comment vous travaillez, ou de tout cela, vous m'avez vite évité, et vous avez raison, parce que vous avez répondu aux grandes questions actuelles que nous nous posons tous d'aujourd'hui et dans nos vies. Alors, si comme moi, vous avez envie d'en savoir un peu plus de comment se créent tous ces univers dans la tête d'un écrivain qui écrit du fantastique, parce que moi qui suis journaliste littéraire, je lis, comme vous, beaucoup de littérature générale, et quand je lis un livre de fantastique, de futur, un conte philosophique comme celui-là, à chaque fois je suis émerveillée de la manière dont l'auteur a pu imaginer tous ces mondes, toutes ces histoires, et je me dis, mais comment il sort tout cela? Parce que dans un livre de littérature générale, souvent on suit l'histoire aussi, mais beaucoup le style de l'écrivain, etc., et on se pose moins la question de... On se rend moins compte de combien c'est difficile aussi d'inventer tout ça, de créer tout ça. Moi, je trouve que Bernard Werber le réussit merveilleusement. Moi, je suis à chaque fois emballée dans ses livres. Je passe des très bons moments. Donc voilà, je vous le conseille. Moi, je vous conseille le dernier, mais il faut demander à lui, si vous le connaissez moins, ce que vous voulez lire. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Et puis...
Merci. Merci de vous être levé aussi tôt ce matin, samedi. Je vous retrouve donc, je crois, à 11h sur le stand pour ceux qui veulent venir.
Et moi, la troisième chose que j'oubliais, que je voulais dire là et que je ne retrouvais plus, si vous voulez en savoir plus aussi sur l'écrivain et collaborer à son Arbre des Possibles, qui est un projet génial et fabuleux, allez sur son site internet qui est bernardwerber.com. Pardon.
Ouais, merci. Et sur Facebook aussi, Bernard Werber officiel. Voilà, merci.